Madame Lermenot de nous conduire dans la prière. Et donc nous lisons la première à Timothée, chapitre 5. Ne réprimande pas rudement le vieillard ou l'ancien, les presbytéros, qui est employé. Mais exhorte-le comme un père, les jeunes hommes comme des frères. Là aussi, c'est les plus jeunes, même terme employé que dans la première épître de Pierre, où je vous l'avais fait remarquer. Les femmes âgées comme des mères, c'est le féminin du même terme comparatif, les jeunes comme des sœurs en toute pureté. En or, les veuves, les vraies veuves, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent d'abord à exercer la piété envers leur propre famille et à payer de retour leurs parents, car cela est agréable à Dieu. Celle qui, vraie veuve, est demeurée dans l'isolement, a mis son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les requêtes et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Voilà ce que tu dois recommander, afin qu'elle soit irréprochable. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Qu'une veuve, pour être inscrite sur la liste, n'ait pas moins de 60 ans, elle ait été la femme d'un seul mari. Alors là, je fais un tout petit commentaire sur cette expression, qui est employée aussi, en sens inverse, homme d'une seule femme, dans le passage sur les conditions pour l'accession à l'épiscopat, au chapitre 3. Ma conclusion, qui suit des travaux de spécialistes, je ne suis pas spécialiste d'une telle question, c'est qu'il faut plutôt comprendre l'homme d'une seule femme, la femme d'un seul homme, au sens de la fidélité, non pas du nombre des mariages au cours de la vie. Ce n'est pas un texte donc qui veut dire que quelqu'un qui aurait été marié plusieurs fois serait écarté pour le registre des veuves, de ces veuves entre guillemets secourues par l'Église et avec une sorte de ministère semble-t-il. C'est plutôt un trait de comportement. Il s'agit de la preuve faite de l'autodiscipline stable de la part des personnes qui ont été mariées. Donc, qu'une veuve, pour être inscrite sur la liste, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été la femme d'un seul homme. C'est comme ça que je traduirais, si vous voulez, plutôt que de mari. Qu'elle soit connue comme ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux et recherché toute œuvre bonne. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque leur désir les détache du Christ, elles veulent se marier et se rendent coupables lorsqu'elles ont annulé ainsi leur premier engagement. Semble-t-il un engagement par rapport à ce registre des veuves et au ministère associé. En tout cas, c'est une façon de comprendre. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, elles ajoutent à l'oisiveté le bavardage et l'intrigue en parlant de choses dont on ne doit pas parler. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, afin de ne donner à l'adversaire aucune raison de médire. Car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Si quelque croyante a des veuves chez elle, qu'elle les assiste et que l'Église n'en ait pas la charge, afin de pouvoir assister celles qui sont de vraies veuves. Que les anciens qui président bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui prennent de la peine à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'emmiselleras pas le bœuf qui foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Ne reçois pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de deux ou trois témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi en aient de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant le Christ Jésus et devant les anges élus, d'observer ces règles sans préjugés et de ne rien faire par favoritisme. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne te rends pas complice des péchés d'autrui. toi-même garde-toi pur. Cette imposition des mains peut se comprendre dans diverses situations, nous allons y revenir brièvement, mais dans le contexte, il me semble, c'est plus probablement le rite d'introduction dans son office d'un ancien. Puis enfin, quelques conseils plus personnels. Cesse de boire uniquement de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge. Chez d'autres, ils ne se découvrent qu'après coup. De même, les œuvres bonnes se manifestent et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Nous prions dans ça. J'ai réservé à notre dernière séance des questions plus controversées que les autres, mais en particulier les deux premières, celle de la collégialité et d'un rite éventuel de consécration, nous permettront de reprendre aussi ce qui n'a pu être traité ce matin, qui concernait le rôle des anciens et éventuellement des diacres. J'ai voulu procéder avec prudence, comme vous en êtes aperçu, en traitant de méthodologie d'abord, d'arrière-plan. Je crois que cela nous permet d'aborder les questions délicates sur lesquelles les avis s'opposent, avec un peu plus de sûreté, mais de toute façon, je ne prétends pas trancher. Je peux vous donner l'option qui me semble la meilleure, mais je ne voudrais pas l'imposer à qui que ce soit. Et de toute façon, les dossiers restent ouverts. Alors le premier sujet, c'est celui du ministère pastoral et de la collégialité. Nous avons vu en survolant l'histoire des ministères dans les églises de la chrétienté, et en particulier issues de la Réforme, que le ministère dit pastoral, qui du côté du clergé réformé a souvent succédé simplement au ministère des prêtres dans les paroisses, des curés, que le ministère pastoral a longtemps attiré presque la totalité des fonctions, qu'en tout cas, il a eu une allure quelque peu monarchique. Avec association d'anciens au statut diversement compris dans la tradition réformée, tandis que du côté des églises de professants, il y avait une grande variété, mais généralement dans la tradition ancienne, une très grande place au ministère d'un seul homme, le pasteur. Le mot pasteur étant devenu nettement un titre, l'aspect métaphorique s'étant estompé. Nous avons vu aussi qu'il y a une évolution en sens opposé qui porte de nombreuses églises de professants dans la direction des assemblées de frères et de leurs traditions, avec un accent très marqué sur la collégialité. Je cite en bibliographie un livre, ce n'est pas un livre épais du tout, mais qui a exercé aussi son influence dans cette direction, et qu'a écrit un théologien réformé, et pas strictement évangélique, Henri d'Espine ou d'Épine, je ne sais pas vraiment comment on dit, de la faculté de théologie protestante de Genève, qui a été assez largement lu pour son petit livre sur les anciens conducteurs de l'Église. Un des cahiers des éditions de la Chaunièsserie, cahier de l'actualité théologique protestante. Quelques précisions de plus sur la manière dont, dans la tradition de la Réforme, le rapport a été conçu et la diversité interne plus détaillée que je l'ai détaillée jusqu'à présent. Du côté luthérien, ce sont les princes, les détenteurs de l'autorité civile, qui ont joué le rôle de partenaire de l'autorité pastorale. Or, on peut dire que le schéma, très grosso modo, je dis schéma, mais je ne le dessine pas au tableau, je ne me hasarde quand même pas, malgré la suggestion qui m'était faite, je n'ai pas assez réfléchi à la manière de dessiner. Mais dans le schéma dans les églises luthériennes, c'est que l'église, comme une espèce de grande école, prend en charge la population. Il s'agit essentiellement d'un cadre pastoral. On a pu parler de Pastorenkirche, église de pasteurs. Mais, comme il s'agit de l'ensemble de la population, c'est sous la surveillance et avec souvent l'interférence très, très effective des princes. Au temps de la réforme, bien sûr, pour que la réforme triomphe, l'action des princes a été décisive. Et on suivait le grand principe, un roi, une foi, une loi, ou cuius regio, eius religio. C'est la région, le domaine d'un tel, bon, ce sera la religion du même, qui va être établi dans cette ère géographique. Donc les princes ont joué le rôle de frère aîné de l'Église, en quelque sorte, dans cette espèce d'encadrement de la population par un corps de pasteurs. Du côté réformé, les choses se sont faites beaucoup plus démocratiquement, avec une distinction beaucoup plus nette de l'Église et de l'État, même là où il y a eu une alliance. On parle facilement de la théocratie de Calvin à Genève, mais en réalité, la distinction de l'Église et de l'État y était plus marquée que dans le domaine luthérien. Et les difficultés de Calvin lui-même ont été des difficultés avec les autorités civiles et à propos des prérogatives des uns et des autres. Ce qui a conduit à un départ de Genève pour Calvin, qui, vous le savez, a dû regagner Strasbourg, revenu quelques années plus tard à Genève, ça a été sa volonté de laisser l'Église déterminer qui peut prendre la scène, ce que les magistrats ne voulaient pas lui laisser. C'est à propos de discipline de la scène. Donc il y a eu davantage de distinctions, malgré la conception très marquée par l'Ancien Testament d'une union nécessaire entre l'Église et l'État, d'une responsabilité religieuse des autorités civiles. Et du coup, au sein de l'Église elle-même, le pasteur ne s'est plus trouvé tout seul, mais assisté d'autres ministères. Alors, chez Calvin, les choses ne sont pas encore très très distinctes, mais on a vu se dégager deux grandes façons d'organiser les ministères dans les églises réformées. Une qui a prédominé sur le continent et l'autre dans le monde anglo-saxon. Je simplifie un peu, je durcis un petit peu les traits, mais c'est quand même intéressant. Calvin a énoncé la doctrine du quadruple ministère. Il a distingué quatre ministères, que nous pourrions dire structurels officiels, dans le Nouveau Testament. C'est bien expliqué, entre autres, dans le livre de Georges Crespi, que je signale en bibliographie. Ces quatre ministères sont les ministères de pasteurs, de docteurs, d'anciens et de diacres. Pour lui, ça fait quatre ministères. Les docteurs sont distingués des pasteurs, contrairement à ce que je crois la lecture juste, conforme à la grammaire grecque d'Éphésiens 4, comme un autre ministère. Ils incluent les professeurs de théologie, mais pas seulement, aussi les instituteurs. Comme c'est la société chrétienne qui est en cause, ce sont les enseignants, alors y compris donc les enseignants qui enseignent les enfants à l'école et au collège. Ce sont les docteurs. Les pasteurs en sont distingués. Et puis, les anciens se distinguent des pasteurs comme généralement des notables, qui ont pour tâche principale la surveillance des mœurs. Ce sont les anciens qui vont soutenir l'action pastorale et surveiller ce qui se passe dans les quartiers, et en particulier noter les pécheurs grossiers et scandaleux qu'il faudra empêcher de prendre la scène. Parce que c'est une très grande préoccupation par rapport à la discipline dans l'Église. Donc, les... Oui, monsieur Clémenceau. Alors, dans la Genève de Calvin, très, très rare. Hein, je ne sais plus, je pense que c'est de l'ordre de l'année. En tout cas, quelques rares fois dans l'année. Mais le souci principal, c'est d'empêcher des pécheurs scandaleux d'y venir et de recevoir. Et les anciens ont particulièrement ce rôle-là. Assistent le pasteur dans cette tâche. Le pasteur prêche, le docteur enseigne, l'ancien surveille et gouverne. Dans ce sens-là, censure les mœurs. Et puis alors le diacre est tout spécialement chargé de l'action caritative, de l'aide sociale, de l'assistance. Mais Calvin a quand même reconnu que dans le Nouveau Testament, c'était un peu plus complexe que cela, donc on trouve aussi chez lui l'amorce d'une autre façon de concevoir le rapport du ministère pastoral au rôle des anciens, et c'est la manière qui a prévalu dans le monde anglo-saxon et dans les églises qui se sont appelées davantage que les églises du continent presbytériennes. On a plutôt dit réformées sur le continent et presbytériennes dans le monde anglo-saxon. Là, et en fonction d'un Timothée 5, le passage que nous venons de lire, on a reconnu que le pasteur fait partie des anciens. Il y a un collège d'anciens qui dirige l'Église, et parmi ces anciens, il y en a un ou, à la limite, plus d'un, qui se consacre particulièrement à l'enseignement, qui est le pasteur. Donc vous avez, dans le langage qui est devenu assez commun, donc dans le presbytérianisme anglo-saxon, les ruling elders, les anciens qui gouvernent, qui dirigent, et les teaching elders. Et là, il s'agit essentiellement des pasteurs. C'est comme ça que les choses se sont organisées dans la tradition réformée. De cette tradition réformée, historiquement, sont issus les baptistes et ultérieurement les libristes, comme je dis. Chez les baptistes, le schéma a été modifié. Habituellement, ce qui a été le langage, c'est le pasteur, considéré comme un ancien, et comme l'épiscope biblique, et puis autour de lui, les diacres, les deacons, formant le conseil. Un conseil qui n'est plus presbytéral, mais diaconal. Bon, le baptisme ayant son origine historique dans le monde anglo-saxon, donc c'est le mot deacons qui a été employé très très couramment. Là aussi, il y a une évolution. Je pense qu'au XXe siècle, on tente à dire ancien plutôt que diacre, dans nombre d'églises de type baptiste. Mais il me semble certain que la tradition était un peu différente dans ces églises de type baptiste. Mais ce n'est pas général, non, non, c'est un peu flottant. Et pour dire les choses encore plus en détail, dans ma propre église, par exemple, nous avons renoncé à user de manière très précise de ces termes. Nous disons les membres du conseil. Et tantôt ancien, tantôt diacre, on ne sait pas très bien comment faire la distinction. En fait, le conseil mélange probablement. Ce qui n'est peut-être pas tellement infidèle, je crois qu'il y a des inconvénients, mais tellement infidèle au Nouveau Testament, dans la mesure où le rôle du diacre, nous n'avons pas eu le temps de le souligner ce matin, mais est un rôle très mal défini. Très peu défini, ce n'est pas une critique, dans le Nouveau Testament. En quoi le ministère du diacre diffère-t-il de celui de l'ancien ou de l'épiscope si les deux coexistent, ce qui semble le cas en tout cas de la deuxième génération chrétienne, de la deuxième partie du temps du Nouveau Testament? En quoi diffère-t-il? La seule note qui me semble ressortir avec un peu de netteté dans la première à Timothée chapitre 3, c'est que la tâche de gouvernement, l'autorité de gouvernement, semble réservée aux anciens. Pour le reste, aucune différence bien nette n'apparaît. Je souligne, avec toute la force que je peux, que rien dans le Nouveau Testament ne réduit aux tâches matérielles le diaconat, le travail du diacre, masculin ou féminin, parce que les femmes sont aussi prévues, nous y reviendrons, quant au rôle de diacre dans le chapitre 3 de la première à Timothée. Rien ne réserve à ces tâches-là. L'idée en est généralement tirée d'acte 6, de la nomination des 7 pour le service des tables. Mais je combats cette opinion sur avec un double argument, disons. D'abord, les 7 ne sont pas appelés diacres. Il est question du service des tables comme du service de la parole avec le mot diaconia, mais c'est le mot général, service ministère, qui peut s'utiliser pour n'importe quel ministère. Le titre plus spécialisé de diakonos, diacre, n'est pas employé pour les 7. Il est question simplement des 7. Et par la suite, Philippe est appelé évangéliste, et non pas précisément diakonos. Donc dire l'institution des diacres, c'est tout à fait gratuit par rapport aux énoncés du texte lui-même. Deuxièmement, ce service des tables, il faut en avoir une idée plus exacte. Ce n'est pas ces 7 messieurs avec un tablier à distribuer la soupe derrière la table. S'il s'agit de la responsabilité de secours pour des milliers de croyants, il s'agit d'une tâche de haute responsabilité pour l'organisation du service d'entraide fraternelle d'une communauté fort importante. Donc c'est un service de haute responsabilité, et manifestement cette adjonction des 7 aux 12 correspond aussi à une grande sagesse concernant l'origine, disons, culturelle différente d'une bonne partie de l'Église. C'est parce que les veuves des hellénistes étaient négligées dans la distribution des secours que ces 7, qui sont tous des hellénistes, sont ajoutés aux 12, qui sont tous des Palestiniens. Les 12 sont des juifs du judaïsme palestinien, mais il y avait à Jérusalem même de très nombreux juifs de culture grecque, de culture hellénistique. C'est eux qu'on appelle les hellénistes, ce sont des juifs encore, mais de culture hellénistique. Ils avaient de leur synagogue à Jérusalem. En fait, pour le premier siècle, il y a plus d'inscriptions en grec en Palestine, qu'on a retrouvé, que d'inscriptions en hébreu ou en araméen. Le grec était très répandu aussi. Donc, il y avait des hellénistes à Jérusalem, autre culture au sein du judaïsme, mais les 12 étaient tous de culture palestinienne, araméenne ou hébraïque. Et ils n'ont pas fait assez attention, etc. Et il y a eu, à la faveur de cette dualité palestinienne, hébraïque et hellénistique, sans doute une distorsion. Et avec beaucoup de sagesse, les 12 se sont adjoints 7 hellénistes. Mais c'est un service donc de grande responsabilité, c'est vraiment comme une contrepartie du groupe des apôtres. Donc n'imaginons pas ce que nous imaginons souvent sous le nom de diacre. Voyez. Ce n'est pas fondé. Alors, le diacre, il ne semble pas qu'il ait la responsabilité de gouverner, puisqu'il n'est pas dit de lui, au chapitre 3 de la première à Timothée, qu'il doit bien gouverner sa propre maison, parce que comment gouvernerait-il autrement l'Église de Dieu, etc. Ça, c'est dit pour l'épiscope, dont on peut considérer que le ministère est le même que celui de l'ancien. Mais à part ça, le champ n'est pas très défini. Et je pense qu'on peut dire que le diacre est un assistant avec une moindre responsabilité, mais qui assiste un peu dans tous les domaines, y compris bien sûr le domaine matériel, l'ancien dans l'Église. Et dans la suite de l'histoire, comment les choses se sont-elles passées? J'ai suggéré à la fin des notes de l'étude précédente que des facteurs pratiques ont joué si l'épiscope s'est détaché du groupe des anciens presbytéroi, s'est élevé au-dessus d'eux en pouvoir. Je trouve extrêmement intéressant de savoir la situation, en gros, vers le milieu du IIe siècle à Rome. Nous avons des indications qui, là, sont assez précises et qui nous permettent d'imaginer aisément comment les choses ont évolué. À Rome, au milieu du IIe siècle, l'épiscope est à plein temps. Il a la responsabilité de l'ensemble de la vie de l'Église. Les anciens presbytres, ceux qu'on appellera prêtres plus tard, oui, ne sont pas à plein temps. Ils ont des responsabilités réparties dans la ville, mais ils ne se consacrent pas de la même façon. Mais il y a des diacres, eux, ils sont à plein temps. Les diacres sont aux côtés de l'évêque. Ce sont les assistants de l'épiscope ou évêque. Et ils distribuent les secours. L'évêque a la charge de la caisse et de l'entraide, et il est assisté par les diacres. Cette situation me semble nous expliquer très facilement, étant donné les ressorts qui jouent dans les rapports humains, que l'évêque, l'épiscope, se soit élevé en autorité, en influence, au-dessus des presbytres. Le fait qu'il était à plein temps et qu'il ait eu l'aspect financier en charge. Qu'il est avec les diacres pour être en quelque sorte ses exécutants autour de lui. Alors est-ce que c'était comme ça tout au début? Peut-être que ce n'est pas exclu que au sein du collège des anciens, le nom d'épiscopos ait été attaché au bout de quelque temps peut-être à celui qui était responsable des finances et de la gestion, peut-être qu'il était à plein temps. C'est possible. Assisté des diacres. Le mot épiscopos correspondant au terme mevaquer de Qumran, dont je vous ai parlé, et le mevaquer étant justement le gestionnaire à Qumran. C'est pas du tout impossible, et c'est aussi une connotation qui s'attache facilement au terme épiscopos dans son usage grec. Nous avons assez de textes pour dire que la tâche de l'épiscopat, surveillance de la communauté, était celle de tous les anciens. Mais on peut très bien imaginer quand même que l'un d'eux est peu à peu attiré en quelque sorte l'usage le plus fréquent de ce terme, parce qu'il se consacrait davantage à la surveillance et à la gestion. Et que du coup, il ait accru son pouvoir, son autorité, et qu'il ait été élevé au-dessus des autres. Ça me paraît possible. Oui, monsieur Galarato.
Est-ce que c'est l'évêque qui est nommé, ou bien c'est le qui est nommé et qui reconnaît?
Alors, pendant longtemps, la procédure semble avoir été démocratique. Principalement démocratique. Et pour les évêques, les épiscopes, eux-mêmes, encore assez tard, avec la fameuse formule « Vox populi, vox Dei », la voix du peuple, parce que c'est par acclamation du peuple que les ministres étaient reconnus et investis de leur charge. D'ailleurs, ça même encore à la fin du IVe siècle, Augustin, l'histoire, je la garde en mémoire, donc j'utilise comme illustration, Augustin, qui s'était converti quelques années plus tôt et qui voulait se consacrer à la retraite, à l'étude, et qui faisait attention de ne pas se faire harponner pour un ministère dans l'Église directement. Il s'était retiré dans sa ville natale à Tagaste, il voulait faire une sorte de petit cercle, genre de monastère studieux pour méditer, éventuellement écrire, etc. Il est de passage à Hippone, l'actuel Annaba, où l'évêque est vieilli, où le peuple s'inquiète un peu de sa succession. Il va quand même au culte, comme nous dirions, nous, protestants. Le peuple le reconnaît, la foule se rend compte que c'est lui, il a déjà une certaine réputation, et tout le monde se met à crier « Augustin, prêtre ! Augustin, prêtre !» Et il a été obligé d'accepter le presbytérat, avec, on s'en rendait bien compte, donc l'espoir qu'il succéderait à l'évêque, ce qui a été le cas, quelques années plus tard. Donc il a été contraint par la clameur de la foule. Et c'est assez typique de la manière dont ça se passait dans les premiers siècles de l'Église. Il y a plusieurs choses comme ça qui ont été oubliées et en tout cas fortement modifiées. Un autre trait, ça nous éloigne un peu de notre sujet, mais quand même, qui est très intéressant à noter, c'est que pendant les premiers siècles de l'Église, on était l'évêque d'une Église, et il n'était pas question de la quitter, d'aller dans une autre ensuite. J'ai lu que pour un évêque quitter son église locale, l'église d'Hippone pour Augustin, qui y est resté toute sa vie, ou l'église d'Éphèse, etc., ça aurait été comparable à un divorce. L'évêque était considéré comme marié à cette communauté. Donc, ce qui est devenu courant ensuite, vous voyez, un évêque qui se déplace, qui nomme archevêque ailleurs, etc., c'était pas pensable à cette époque-là. Bon, ça nous éloigne un petit peu, mais quand même, ça nous donne une idée un peu plus concrète de ce qu'était le rôle de l'évêque. Alors, à partir de là, se pose la question de la collégialité de la tâche pastorale par rapport à nos débats d'église évangélique actuelle. Le pastorat, qui fait penser au moins à un système monarchique, est-il condamnable au nom du principe de collégialité? Vous avez certains qui vont pratiquement jusque-là. Disons, ce n'est pas fidèle à l'écriture. Je pense que la question n'est pas si simple. Et que l'on peut plaider que si, en effet, le gouvernement de l'église locale dans le Nouveau Testament semble avoir été, pour les églises au monde, un peu mûries en tout cas, la prérogative de plusieurs, ça semble être la situation courante, généralement le mot ancien est au pluriel. D'une part, on peut noter, c'est ce que fait le dogmaticien Baptiste Strong, que dans 1 Timothée 3, curieusement, le mot est au singulier, épiscopos, alors que le mot diacre est au pluriel. Comme s'il envisageait une situation où il n'y a qu'un seul ancien épiscope entouré de ses diacres. Ce n'est pas quelque chose qui serait peut-être forcément scandaleux. Puis alors, il y a la situation que j'ai notée aussi dans le canevas de la quatrième étude, mais la situation des églises de maison. Il semble bien qu'à Corinthe, qu'à Éphèse, dans ces grandes villes, il y a eu une sorte de multiplication unifiée de l'Église. La structure n'est pas tout à fait la même que la nôtre. Il y a l'Église de Dieu à Corinthe, mais il y a plusieurs églises de maison qui réunissent sans doute entre 50 et 70 personnes chez des notables qui se sont convertis, qui jouent un rôle. Philémon, par exemple. Ce n'est pas comme pour nous, plusieurs églises tout à fait distinctes, car ces groupes de maisons constituent l'église à Corinthe à laquelle Paul pourra écrire. Mais en même temps, il y a quand même une pluralité là. Alors il semble assez probable que les anciens sont souvent les hôtes de ces églises de maison. Ces personnalités fortes, riche aussi à tous égards, aussi matériellement, qui reçoivent une église, un groupe 50-60 personnes chez eux. Ils ont une autorité qui vient de cette situation aussi. Et c'est leur témoignage qui a porté du fruit. Et ensemble, alors, ils forment les anciens de l'église de Corinthe. Mais dans le groupe de maison, il n'y en a qu'un quand même. Donc il y a collégialité par rapport à l'ensemble de la ville, mais il y a rôle unique et relativement monarchique pour tel groupe de maison. Vous voyez en quoi cette situation qui n'est plus tout à fait la nôtre permet de poser le problème de la collégialité un peu différemment de ce qui est souvent proposé. Et puis il y a, et ça c'est un élément qui n'est pas sans importance, le ministère de docteur distinct de celui d'ancien, associable à celui d'ancien, mais aussi distinct malgré tout, avec ces docteurs itinérants qui restent plusieurs années dans une église, mais qui n'y sont pas attachés à vie, on peut plaider que les pasteurs dans nos églises évangéliques qui disent avoir des pasteurs, que les pasteurs correspondent plutôt à ces docteurs itinérants ou à ces assistants de l'apôtre Paul qu'il a délégué pour s'occuper des affaires d'une église pendant un certain temps. Souvent les pasteurs restent quelques années puis vont dans un autre lieu, et assez rarement ils sont originaires de l'assemblée où ils exercent. Vous voyez, on peut plaider cela. Je mets dans les notes que M. Sylvain Romerovski plaide dans ce sens. C'est dans son cours à l'Institut public de Nogent. Alors, il ne l'a pas publié, il ne doit pas être publié, cité même. Oulala, il y a un avertissement. Il m'en a fait le cadeau, mais je dois être prudent donc dans la manière de m'y référer à cause de l'avertissement qui est donné. Mais il plaide dans ce sens, je pense que je peux le dire. Je crois qu'a plaidé aussi dans ce sens Monsieur Émile Nicole. Il a fait un travail que j'ai entendu ici même, lors d'un recyclage, comme on dit, pastoral, pour les églises de professants, et ça a été publié, je n'ai pas lu le texte publié, je l'ai entendu, publié dans les cahiers de l'école pastorale de Massy. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on peut mettre en avant pour rééquilibrer l'accent sur la collégialité, qui je crois a été justifié, mais peut-être un peu exagéré, dans nos églises évangéliques ces dernières années. En troisième paragraphe, sous-paragraphe, sous le titre ministère pastoral et collégialité, je glisse aussi une pensée qu'il me faut expliquer à propos des réactions du troupeau, entre guillemets. Et il faut user de discernement quant au cléricalisme spontané de beaucoup de fidèles. Pastorat monarchique qui a été, je pense, effectivement trop concentré, trop exclusif dans le passé de beaucoup de nos églises, correspond, je crois, à un cléricalisme spontané. Les pasteurs ont, de leur côté, contribué à ce cléricalisme parce qu'il y a des aspects de pouvoir. Même quand c'est un pouvoir qui s'exerce pour le bien de tous, avec une grande humilité consciente, c'est quand même aussi un maniement de pouvoir. Comme aussi le rôle d'enseignant, hein. J'en suis conscient devant vous. Hein. Bon. Donc, il y a eu un rôle des passions. Mais je crois pouvoir dire que dans les églises, les fidèles ont encore davantage poussé à ce cléricalisme spontané. Qu'il y a un désir de reporter sur une figure unique toute la responsabilité de s'en décharger peut-être. Il y a aussi des restes de catholicisme et un cléricalisme catholique, parce que beaucoup des membres de nos églises ont un arrière-plan catholique avant la conversion. Mais je pense qu'on peut l'observer. Il y a aussi l'aspect très pratique du plein temps. Il est là pour ça. Nous travaillons toute la journée, nous sommes fatigués, etc. Il est là pour ça. Oui. Donc, il y a un cléricalisme spontané, et sans doute faut-il lutter contre la force qu'il représente. Mais en même temps, je crois qu'il y a une composante qui est saine et juste, et c'est ce qui est le plus difficile à énoncer, mais j'essaye de l'énoncer. Je crois qu'il y a, chez nos frères et sœurs, chez nous tous au bout du compte, le désir de voir un homme de Dieu, que ça compte beaucoup, qu'une église, souvent, est prospère, progresse, quand il y a une personne devant qui on a un peu le sentiment qu'ont les catholiques devant ceux qui s'appellent les saints. Nous n'allons pas dire un saint, mais homme de Dieu, l'homme de Dieu. Comme déjà dans l'Ancien Testament. Quelqu'un qui est entièrement consacré au service du Seigneur, en qui le Seigneur semble rayonner. Ça existe. Et je ne pense pas que ce soit malsain. Je crois que le Seigneur travaille beaucoup plus quand même par des personnes que par des structures, que ça compte davantage que les structures. Qu'il est juste qu'on demande au Seigneur qu'il y ait des personnalités de cette sorte. Et on retrouve peut-être un élément de ce rôle de représentation du Seigneur dans son peuple que nous évoquions précédemment. Alors, c'est dangereux, ça peut produire une déresponsabilisation indue, une séparation dans la fraternité qui n'est pas juste. Nous sommes tous des laïcs, et sacerdoce universel, mais en même temps, je crois bien que Dieu veut travailler en suscitant des personnes, et je pense que ça correspond à une dimension du rôle pastoral. Alors, je dis mon sentiment, ça peut être contesté, je le conçois bien, mais je dis mon sentiment à ce propos, c'est ce que j'ai voulu glisser sous le point 3 du premièrement. Alors, lié à cette question, celle de la consécration au ministère, de la cérémonie par laquelle on introduit assez habituellement dans nos églises mêmes au ministère pastoral et parfois au ministère d'ancien lorsqu'on le distingue, et éventuellement même au ministère de diacre si là aussi il est distingué. Dans notre tradition protestante francophone, c'est le mot de consécration qui a été choisi, et lorsqu'on dit ordination, ça fait catholique, donc nous réagissons plutôt négativement. Mais nos frères et sœurs de langue anglaise n'ont eu aucun problème avec le mot ordination. Les pasteurs évangéliques, baptistes, etc., disent ordained, suis ordonné. Et donc, je ne pense pas qu'il faille tellement nous exciter sur les mots à ce propos. Il s'agit surtout de savoir comment considérer un rite qu'on appellera de consécration ou d'ordination. Je résiste à l'idée qui est l'idée catholicisante, mais avec des reprises dans la tradition protestante, d'un rite qui conférerait la compétence spirituelle, qui serait un sacrement ou quasiment, par lequel certains pouvoirs sacrés seraient attribués à la personne qui la rendrait ainsi capable d'accomplir les actes du ministère. Je reconnais que le texte de la première à Timothée qui évoque le don reçu par Timothée par l'imposition ou avec l'imposition des mains du collège des anciens, au chapitre 4 de la première à Timothée et au verset 14, ça nous n'avons pas lu, j'aurais peut-être pu commencer à lire un peu avant le chapitre 5. Je reconnais que ce verset peut sembler aller dans le sens de la thèse que j'écarte. L'apôtre Paul dit à Timothée, Ne néglige pas, 4:14, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains du collège des anciens. Et le avec, ici, est une traduction littérale, ce n'est pas la préposition instrumentale. Dia, qui aurait pu être employée et même traduite avec, mais c'est méta qui ne peut être traduite que avec. Apparemment, Timothée, lui, a reçu un don au moment même où on lui a posé les mains. Il y a une prophétie qui a dû être émise dans l'Église, une prophétie donc de type particulier, disant que Timothée, ce jeune Timothée, devait être mis à part pour le service du Seigneur. Et alors une cérémonie a eu lieu. Les anciens, en général, disons, c'est une interprétation là encore, c'est le presbytérium qui a imposé les mains. Alors, on comprend le plus souvent le collège des anciens, mais c'est pas aussi précis dans l'original. Il y a eu apparemment les anciens qui lui ont imposé les mains, et à l'occasion de cette cérémonie, le lien étant exprimé par la préposition avec, donc Timothée a reçu le charisme voulu pour l'exercice du ministère auquel la prophétie l'avait assigné. Ça semble être l'interprétation de ce texte. Et je ne cache pas que ça semble aller dans le sens donc d'une cérémonie de consécration-ordination selon laquelle, ou en liaison avec laquelle, il y a communication d'une compétence, d'un charisme correspondante au ministère. Mais il me semble que ce verset est trop isolé pour qu'on puisse en tirer une règle générale. Il me semble qu'il est dit que ça s'est passé comme ça pour Timothée, mais que rien ne nous oblige à dire c'était alors le cas habituel de l'imposition des mains au moment où quelqu'un entrait dans l'exercice d'un ministère. Le fait qu'il y ait eu imposition des mains semble avoir été assez régulier. Je dis assez parce que rien ne prouve que c'était non plus tous les cas, dans tous les cas, la manière de faire. Mais nous voyons l'imposition des mains pour les sept en acte 6, nous voyons l'imposition des mains pour les Barnabas qui sont déjà des prophètes et docteurs en activité à l'école, à l'église d'Antioche. Donc, il est assez probable qu'il y ait eu imposition des mains. Mais quel est le sens de ce rite? On ne saurait, me semble-t-il, dire que chaque fois qu'il y a imposition des mains, c'est un don spirituel qui est communiqué, que c'est la transmission d'un don qui est en cause. L'imposition des mains, déjà dans l'Ancien Testament, et ensuite dans le Nouveau, semble avoir eu une multitude de significations. C'est un geste qui peut signifier la reconnaissance, la solidarité, la transmission d'une charge, la communication d'un don, soit effectué, soit demandé à Dieu, une recommandation à Dieu dans la prière. Il me semble que l'imposition des mains qui est utilisée pour les malades, qui est utilisée aussi en liaison avec le baptême, très souvent, Acte 19, par exemple, pour les environ 12 d'Éphèse. Tout cela me semble indiquer que nous ne saurions tirer du fait que l'imposition des mains a été pratiquée la conclusion que l'imposition des mains pour un ancien signifie qu'à ce moment-là, un don lui était communiqué. Ce serait, me semble-t-il, abusif. Ça peut aussi bien signifier seulement la reconnaissance officielle dans la solidarité de ceux qui ont déjà un ministère, et peut-être de tout le peuple rassemblé, et la recommandation à Dieu. Souvent, c'est un geste qui accompagne solennellement la prière. Il est sûr que le fait de toucher en mettant la main sur quelqu'un était un geste familier dans la symbolique gestuelle des temps bibliques, qu'on le faisait facilement à diverses occasions. Et donc nous n'avons pas à lui donner une signification trop particulière. En tout cas, c'est la conclusion que je crois pouvoir tirer des divers passages de la Bible qui en parlent. Cela dit, je ne veux pas du tout exclure que Dieu confère un don dans sa liberté à ce moment même de la consécration pastorale ou presbytérale. Il est sûr que Dieu peut le faire à ce moment-là, et qu'il le fait parfois. Je crois que M. Jules Marcel Nicole raconte l'histoire de quelqu'un qui l'a connu, qui au moment de sa consécration pastorale, manifestement a reçu un don qu'il n'avait pas. Je ne sais plus si auparavant il bredouillait, bégayait, était très mauvais orateur ou quoi, et puis il a reçu le don qu'il n'avait pas manifestement pour pouvoir remplir sa charge, le devoir de sa charge. Donc, pas du tout exclu. Mais je ne pense pas que nous ayons quelque chose dont on doive faire loi en la matière. Et alors, la question se pose, me semble-t-il, de la nécessité éventuelle de cette cérémonie. Il me semble qu'il n'y a pas de loi dans le Nouveau Testament et qu'il serait imprudent pour les chrétiens d'en faire une loi, comme si un ministère devait être introduit par une telle cérémonie, par un rite solennel dit de consécration, d'ordination, d'imposition des mains. Je pense qu'il n'y a pas de loi dans le Nouveau Testament et que c'est une utilité de cette cérémonie qui peut conduire à la recommander, surtout dans le cas où il y a union d'église, pluralité d'église, cette cérémonie permettant une recommandation globale, en vue aussi de l'itinérance éventuelle du ministère, pour toute l'union d'église en cause. Je parle de cette façon sans ignorer que je suis concerné. Je considère, franchement, je vous parle, que je suis reconnu par mon église, que je l'ai été que dans un rôle pastoral-doctoral. Je pense que j'en ai suffisamment de preuves. Mais en fait, il n'y a jamais eu, dans mon cas, de telle cérémonie, parce que c'est une église locale, indépendante d'une union, et qui n'a pas éprouvé le besoin d'instituer un tel rite. Je ne me sens pas dépourvu de reconnaissance du fait qu'il n'y a pas eu une telle cérémonie. Donc, la thèse que je défends me touche aussi de manière personnelle. Oui, madame. Oui, quand l'importance attachée à cette cérémonie se lie à la tendance institutionnelle, à la manière de considérer le ministère d'abord comme ordre, alors je crois que le danger que vous signalez est présent. Oui, monsieur Lermenot.
On a l'habitude de dire le cœur sort du pain, parce que c'est pas forcément évident quand même.
À coup sûr non, hein. Vous savez que les professeurs de la faculté font ce qu'ils peuvent pour dire surtout ne considérez pas le diplôme comme un brevet d'aptitude à la tâche pastorale. Pas forcément. Nous sanctionnons des études et des résultats aux études, bon, y compris des stages. Dans certains cas, quand les stages n'ont pas été satisfaisants, d'ailleurs, il peut y avoir diplôme avec une mention qui le signale. Nous l'avons prévu aussi, parce que pour d'autres ministères, il peut y avoir grande utilité de cette personne, mais pas pour le ministère pastoral, et donc ça peut faire partie d'une mention particulière. Mais enfin, même quand les stages ont été satisfaisants, donc le diplôme est accordé, nous ne recommandons pas forcément pour un ministère pastoral. C'est l'affaire des églises de vraiment considérer l'ensemble des aptitudes, y compris celles de la personnalité, ses démarches et orientations.
Et alors, il y a un problème. Comment se règle le problème de réalité, le passeur est déjà tout puissant, puisque par définition.
C'est pas un pasteur qui dit ça.
Peut-il être pas remis en cause par ses acolytes? Parfois, il y a quelque chose de difficile dans notre système congrégationniste, en tout cas.
Oh oui, oui, oui. Je pense que là, c'est un peu une question distincte que vous soulevez, mais qu'elle est d'une très grande importance pratique. Quand un ministère pastoral se révèle sur certains points au moins négatifs, avec des effets destructeurs dans une église, ça arrive. Comment arrêter les dégâts? Comment empêcher que le dommage continue? C'est parfois très très difficile. À cause de notre système congrégationaliste, dit M. Lermenot, c'est-à-dire la souveraineté de l'église locale. C'est cela que l'on peut appeler le congrégationalisme. Mais pas seulement, aussi à cause des habitudes d'individualisme et d'individualisme communautaire, je dirais, même quand le système n'est pas congrégationaliste. Je connais le cas d'une église qui appartenait à l'Union des Églises Libres, qui n'est pas congrégationaliste en principe, puisque c'est le système synodal qui est employé. Et dans cette église, s'est produit le malheur que nous évoquons. Un pasteur qui a été suivi par une majorité, pas une la totalité de loin, mais de sa communauté, et comme les autorités du synode de l'union des églises libres n'était pas d'accord, et à mon avis avec grande raison, eh bien l'église est sortie, c'est tout. Avec de très grands dégâts, de grands dommages pour le témoignage dans toute la ville. Je connais un peu cette situation. Donc, même dans un système qui n'est pas congrégationaliste en principe, on trouve ces mêmes réflexes. C'est effectivement une situation très très difficile. Mieux vaut prévenir que guérir. Je crois pouvoir dire, par rapport au point que nous soulevions alors il y a quelques instants, que les églises ne sollicitent pas assez, au moment d'engager les pasteurs, l'avis de ceux qui les connaissent, et entre autres des professeurs de la faculté. Dans certains cas, nous sommes surpris qu'on ne nous ait pas demandé une recommandation, un avis plus circonstancié. Dans d'autres, nous avons dit un mot, on ne peut pas en dire trop, surtout si on s'est écrit, mais qui normalement devrait quand même susciter des questions en retour. Et puis rien n'est venu. Bon. Dans certains cas, nous sommes lâchement soulagés qu'on ne nous ait rien demandé, mais c'est de la lâcheté, ça. C'est... Oui, vous voyez, c'est comme ça que ça se produit assez souvent. Je crois qu'il n'y a pas suffisamment de recherche au moment d'engager éventuellement un pasteur. C'est qu'à la radio, mademoiselle Benetro.
Une personne qui va se consacrer à l'œuvre du Seigneur, qui dit qu'il a la vocation du Seigneur. Oui. Ça, il a su l'appel du Seigneur pour se former afin de servir l'Église.
Oui.
Du cours de sa formation, il peut se rendre compte, ou bien l'Église qui va l'instituer se rend compte, qu'il a peut-être une vocation, mais il n'a pas l'aptitude à. C'est ça qui est la difficulté. D'où l'appel de Dieu. Dans notre société, on n'a pas le droit de juger son appel. Il l'a fait volontairement et il a fait toute sa vie en place. Et puis, justement, il n'a pas d'aptitude pour le faire. C'est ça qui est difficile. Et je me demande si, à ce moment-là, s'il y avait justement dans l'Église un conseil d'anciens, un diacre, véritablement zélé pour le Seigneur et qui a mûri avec l'Église, n'est pas capable de l'aider à satisfaire sa vocation. Et c'est peut-être pour ça que la conjoncture est de fond, peut-être dans un sens ou dans un autre, c'est bien qu'il y ait une collégialité pour aider aussi le pasteur dans sa vocation.
Non, moi je souscris entièrement à ce que vous dites, en ce qui me concerne en tout cas. Je pense que c'est ce qui est souhaitable, que précisément les anciens aient dans l'Église, les autres anciens, si on considère le pasteur comme l'un des anciens, est suffisamment d'autorité et de poids pour vraiment aider celui qui n'a pas tout à fait l'aptitude. Les autres commentaires que je ferai sur ce que vous venez de dire, c'est que la conviction de l'individu est un élément dans le dossier, je dirais, mais ne doit pas être considéré comme tout déterminant. Il ne suffit pas, il faut que nous soyons sages devant le Seigneur, que quelqu'un dise « le Seigneur m'a parlé, m'a dit ça » pour que la chose soit établie. Il y a un discernement à exercer sur les fruits, les dons, et le sérieux, l'engagement, la stabilité. Tout ça compte. L'apôtre Paul ne dit pas si quelqu'un ambitionne la charge d'évêque, s'il en a la conviction, et ben il faut lui dire oui, c'est tout. Il dit voilà les conditions. Il dit c'est bien, il faut l'encourager, mais voilà les conditions. Donc, ça c'est un premier point. Deuxième point, deux considérations qui sont antagonistes, mais je les crois juste l'une et l'autre. Il faut les aptitudes, et cette conviction ne suffit pas. C'est en voyant les aptitudes que nous discernerons si le Seigneur veut vraiment confier un ministère à un tel ou un tel. Et des pasteurs qui ont certaines aptitudes, mais aussi des traits de caractère, et parfois de la pathologie psychique, peuvent faire des dégâts énormes, il faut en tenir compte. Mais d'autre part, c'est pour ça que, considération antagoniste, il ne faut pas être, je dirais, trop prudent. Ne sois pas juste à l'excès, ne sois pas prudent à l'excès. Dieu s'est servi de gens qui n'étaient pas toujours parfaitement équilibrés, et pas toujours très faciles à vivre, au long de l'histoire de l'Église. Il a fait des œuvres puissantes par leurs moyens, et parfois c'est un reproche que je m'adresse par rapport au choix de personnes dans l'Église, dans des œuvres dont je suis peut-être, exiger trop d'avance un bon équilibre agréable pour ne pas avoir d'ennui ensuite. Mais est-ce que ça correspond tout à fait à la volonté du Seigneur? Il y a aussi, ça je l'ai observé, une croissance qui vient de la prise de responsabilité. Des gens, des personnalités, donc je dis, est-ce que vraiment ils pourraient assumer ça? Et qui se développent admirablement lorsqu'on leur a confié la charge. Donc, voyez, ces deux considérations, je pense, méritent d'être faites. Mademoiselle Benetro, et puis monsieur aussi.
Il semble que, par contre, il manque un maillon quand même dans la façon dont on forme, on repère, on est dans une société qui a l'habitude de recruter sur diplôme. Quoi qu'on dise, les églises sont impressionnées par l'existence d'un diplôme. Et d'autre part, j'ai un ami qui est séminariste, et j'ai l'impression, moi, ils sont plus longs, enfin, différents, mais qu'ils sont beaucoup plus préparés à la charge qu'ils auront que ce qui se produit dans les milieux protestants. Et que j'ai aussi un
indiqué
à
Aragon,
c'est même encore pire là-bas, c'est
encore pire.
Tandis qu'au séminaire, ils prennent beaucoup plus en compte la formation de la personne, la personne et la préparation à la tâche à venir, y compris son isolement, y compris sa difficulté, etc. J'ai l'impression qu'il manque quand même un maillon du fait qu'il existe des diplômes et que certains.
Oui. Alors là, simplement deux remarques. La première, c'est que nous essayons de susciter un maillon intermédiaire, tant bien que mal, je ne sais pas si on peut l'appeler carrément le maillon, mais avec la cinquième année de stage donnant lieu à un diplôme en théologie appliquée, comme nous l'appelons, nous poussons dans ce sens. Nous avons augmenté la part des stages, nous avons institué depuis cette année un stage au milieu de l'année, de 4 semaines, au lieu de nous contenter de l'été, où les églises ne vivent pas leur vie ordinaire. Nous essayons de susciter davantage ce lien médiateur que vous évoquez, pour ce qui est donc de notre faculté ici. Et puis, deuxième remarque, alors, là où les choses se passent le mieux, c'est dans les unions d'églises organisées, conscientes du problème, qui ont une commission des ministères, qui suivent les étudiants, qui les envoient d'abord, les suivent, les recyclent, leur font faire des stages ultérieurement. Et c'est ce qu'il faut recommander. C'est un des avantages sérieux de la coopération des églises locales en union d'églises. Il me semble que c'est tout à fait certain, et je le dis d'autant plus volontiers que ma propre église donc non bénéficie pas, n'est pas dans une union, mais je crois que c'est une chose qu'on peut approuver et recommander.
Oui, monsieur. Il avait commencé à participer. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il arrive des fois où un étudiant sort des écoles de gros succès, ou des gens où il a eu. Et il vise parfois la qualité. Tu vois, c'est accepté. Un jeune qui revient des études avec tous ses diplômes. Et vous avez parlé, si on pose la question à la faculté s'il y a des réserves, mais j'ai normalement dit, c'est parfois des réserves. C'est hier, M. Dubois disait, parfois sur certains diplômes, lorsqu'on n'a pas suivi les ordres médiatiques, recommandé pour service diaconaux. S'il n'y a pas d'information, l'Église n'est pas à même de savoir, parce qu'il n'y a pas de pratique, il n'y a pas une démarche qui est faite. Et peut-être, parce que les écoles de formation ne devraient pas informer en détail les conseils positifs ou les églises, parce que là, il y a une méconnaissance pour nous, aux Antilles notamment, lorsqu'on vient d'une école, une école, quand même, c'est des grands rêves. Et parfois, on est déçu dans la démarche, et dans la vie du jeune pasteur et la manière de conduire. Et donc,
oui, alors là, je reprends ce que je disais il y a un instant. Comme faculté, nous recommandons aux églises de nous interroger. Disant, ne considérez pas le diplôme comme un brevet d'aptitude, comme une recommandation en soi. Cela dit, je pense que la faculté ne peut pas faire plus et faire la démarche de présenter au conseil presbytéraux si elle apprend qu'il s'intéresse à tel ou tel, les réserves éventuelles. Je pense même qu'il y aurait des problèmes juridiques qui pourraient se poser. On pourrait nous faire des procès si nous entamions une telle démarche. Nous n'avons pas à desservir nos anciens étudiants, éventuellement, je dis éventuellement, parce que c'est une petite minorité pour lesquelles nous pourrions avoir des réserves. Mais et je crois que le maximum que nous puissions faire, et nous essayons de le faire, et puis vous voyez, je le fais aujourd'hui, quoi, c'est de dire que les églises nous interrogent. Là, nous sommes prêts à répondre confidentiellement, sous les formes appropriées. Mais je ne pense pas que nous puissions faire beaucoup plus à ce propos. Puis alors, je fais une autre remarque encore. Bon, nous dérivons vers la théologie pratique, hein, même si je suis dogmaticien, je peux dire deux, trois mots. Je pense que il est important qu'on laisse aux jeunes diplômés, même s'ils ont fait des stages, et même des stages de plusieurs mois, quand même le temps d'apprendre sur le terrain, le ministère, d'y commettre certaines maladresses, avant d'entrer dans leur plein ministère. Je l'ai vu maintenant pour plusieurs de nos anciens, et je dirais les plus doués, avec vraiment un grand potentiel pour le Seigneur. Pendant 2-3 ans, certains ont commis des maladresses, c'est sûr. Alors s'ils restent dans la même église, c'est désastreux, il leur faudra des années et des années. Les maladresses commises pendant juste quelques semaines, quelques mois, parce qu'ils ne sont pas encore tout à fait dans leur peau, etc., déterminent une image qui ensuite est très difficile à modifier. Alors il est beaucoup plus sage qu'ils aient un temps auprès d'un pasteur plus expérimenté, que là ils fassent éventuellement quelques fautes, puis qu'ils aillent ailleurs. C'est à mon avis la voie de la sagesse. Et il faut avoir patience avec les jeunes qui ne savent pas encore tout à fait s'y prendre. Il y a certains d'entre eux qui se font matraquer dans les premières années. C'est peut-être très très dur. J'en connais, certains prêts d'abandonner le ministère ou même l'abandonnant parce que ils arrivent dans une paroisse, on attend tous deux, ils font les choses autrement, ils ne savent pas. Aussi au plan de la prédication. Vraiment, j'ai vu dans le cadre de plusieurs que c'est au bout de 2-3 ans que là, ils se mettent à prêcher de la manière voulue pour répondre aux besoins des auditeurs. ils ne font plus un exposé pour plaire à leur professeur, mais vraiment, ils apportent un message qui va nourrir le troupeau. Et donc, ma recommandation, c'est qu'on tienne compte de cette évolution dans le temps. Ce sont des... Monsieur Lermenot.
Une dernière question.
Oui, ça doit être la dernière, puisque l'heure est...
Faut-il changer d'ancien chaque fois qu'on change de pasteur?
Alors, personnellement, je répondrai non. Alors, de la manière la plus énergique, il me semble que la continuité est souhaitable dans la vie d'une église, et que dans la mesure où le pasteur est le docteur itinérant... qu'il est presque, en tout cas, assez souvent dans nos églises, la continuité doit être assurée par les autres anciens, ceux qui restent là, et donc, en changer à ce moment-là, ça me paraît vraiment dommageable à la vie de l'Église. Alors, une autre question qui se pose de manière connexe, c'est le mandat d'ancien doit-il être à vie ou pour un temps limité ? Rien dans l'Écriture ne répond très précisément à cette question. Je crois que l'expérience, là aussi je me réfère à ce qui était le cas dans ma propre Église, conduit à choisir des mandats à temps limité, renouvelables, plutôt qu'à un mandat à vie, à propos duquel des difficultés peuvent surgir. C'est l'occasion de faire les choses beaucoup plus en douceur, beaucoup plus naturellement, que d'avoir un mandat qui ne soit pas trop court. Hein. Je crois quand même que 2 ans, ce serait ridiculement court pour un mandat d'ancien, mais minimum de 4 ans, probablement 6 ans.
Le problème se pose car la spiritualité du pasteur et celle de certains anciens n'est pas la même. Alors, est-ce que la spiritualité du pasteur va apporter...
Oui, oui, bien sûr, je vous comprends, mais moi, vraiment, moi, il me semble que ce ne devrait pas être permis, même avec tout ce que j'ai dit sur l'homme de Dieu et son rôle tout à l'heure. Je ne le renie pas. Je crois qu'il serait vraiment très déplaisant, contraire aux perspectives bibliques, que la spiritualité d'un homme dans l'Église soit considérée comme la loi imposée à tous. Non, ce serait pas normal. Vraiment, c'est l'Église de Jésus-Christ, c'est pas l'Église de Monsieur Untel. Ça, nous devons résister à cette tentation. Vous savez, nous, dans notre langage de tous les jours, et entre pasteurs, nous parlons comme ça, c'est l'Église de Monsieur X, Monsieur Y, je ne vais pas préciser encore, mais cela n'est pas légitime. Non, c'est l'Église de Jésus-Christ. Madame. Oui, merci de ce témoignage, en effet. Oui. Je rappelle cette parole de l'apôtre Paul dans la première aux Corinthiens, au chapitre 11, quand il dit qu'il est nécessaire qu'il y ait des divisions, des hérésies, des sectes, afin que ceux qui soient approuvés soient manifestés. C'est aussi un aspect de la pédagogie divine. Et ce que vous dites de l'attitude des anciens, par exemple, m'a fait penser à ce verset. Bon, je pense que ça va être la dernière intervention puisque l'heure est atteinte. Donc, pour la suite, vous avez les notes du canevas et la bibliographie. Mais, Monsieur Tamba,
Parce qu'un règle général des églises, Est-ce qu'une diversité de spiritualité n'est pas génératrice de conflits? Est-ce que, bon, là, le cas d'une professeure a évoqué, c'est un exceptionnel. Je ne sais pas si une spiritualité dans une église, c'est pas seulement gérable.
C'est pas facile, et pourtant, et contrairement au principe de certains théoriciens de la church growth, que j'ai évoqué lors de la première étude, je crois que le modèle du Nouveau Testament, c'est d'essayer de gérer. Que ça fait partie du témoignage à rendre, non seulement aux êtres humains, mais aussi aux puissances des lieux célestes. Toute l'exhortation de l'apôtre Paul aux Romains en particulier, dans les chapitres 14 et suivants, va dans ce sens, me semble-t-il. Entre les juifs convertis donc à Jésus-Christ, mais qui encore étaient sous l'impression de leur éducation à propos des nourritures, à propos des jours à respecter, etc. Et puis les convertis du paganisme, etc., c'était des spiritualités aussi, et même sans doute des éthiques à certains égards fort différentes. Et Paul ne leur dit pas, bon, ben, faites deux assemblées, soyez... Non, il les exhorte vraiment à se supporter, à s'accueillir, comme Christ nous a accueillis, avec toute une batterie de textes de l'Ancien Testament à l'appui. Donc, je crois que c'est l'appel, la vocation qui nous est adressée. Voilà, merci donc pour votre patience jusqu'à cette minute.